l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mes invités de la rédaction aujourd'hui sont Thierry Cor, le président du JEECJ, les Journées Européennes de la Culture Juive France, qui se déroule du 4 au 18 septembre 2022 avec un programme appelé Renouveau. Et nous recevons également Yoav Rossano, en charge de la culture et du patrimoine ici au sein du consistoire israélite du Bas-Rhin. Thierry Cor, Yoav Rossano, bonjour.
Bonjour.
Alors, contrairement à beaucoup d'événements ou d'organismes qui n'ont d'européens que le nom, ces journées s'inscrivent vraiment au niveau européen, avec une déclinaison dans de nombreux pays. C'est cela, Thierry Cor ?
Absolument, déclinaison dans une trentaine de pays.
C'était une volonté de... Parce que là, nous, on va parler évidemment ici plus spécifiquement de cette journée européenne, ici en Alsace, en Moselle, Outre-Rhin également, il y a quelques événements dans le Bade-Wurtemberg. Mais au niveau européen, c'est la même, on va dire, c'est la même genèse, ce festival.
Alors l'origine est commune puisque ça s'est développé très rapidement d'une idée qui était née en Alsace dans les années 1996, si ma mémoire est bonne, et ça a très vite essaimé vers l'Europe dès 1999. Les pays frontaliers d'abord, Allemagne, Suisse, et ensuite toute l'Europe à travers l'action du Bnebrit Europe, et ensuite d'une organisation spécifique dont le siège est au Luxembourg, et qui s'appelle donc l'AEPJ, enfin c'est un sigle. Voilà. Et pour dire que l'Europe telle qu'on l'entend, effectivement, pour ces journées européennes de la culture juive, c'est pas l'Union européenne, mais c'est les pays du Conseil de l'Europe.
Les pays du Conseil de l'Europe, donc...
Donc 47 pays.
Vous allez jusqu'en Turquie.
On va jusqu'en Turquie, jusqu'en Azerbaïdjan, jusqu'en Géorgie, mais pas en Russie.
Alors, je le disais en introduction, c'est un sujet qu'on n'ouvrira pas ici, maintenant. Alors, je le disais en introduction, une édition baptisée Renouveau, alors qu'on parle de patrimoine, ça peut paraître antinomique. Pourquoi Renouveau ?
Alors, le choix du thème Renouveau, donc c'est un choix qui est fait au niveau européen, donc ça s'enchaîne bien avec ce que je disais précédemment. Et donc, c'est décliné éventuellement de façon différente selon les pays, et dans chaque pays, ça peut être aussi décliné différemment selon les sensibilités. Il est évident que quand on regarde vers l'est de l'Europe, le mot renouveau a vraiment un sens puisque les communautés y ont disparu, les communautés juives, ou quasiment disparu et sont en train de renaître. Il y avait aussi ensuite, bien sûr, le poids du système soviétique qui n'a pas favorisé les choses. Donc aujourd'hui, il y a un véritable regain d'intérêt pour la culture juive dans ces pays-là et aussi la volonté de développer un tourisme pour redécouvrir le patrimoine juif qui reste dans ces pays parfois sans communauté juive.
C'est un réel travail de mémoire auquel on assiste également dans certains pays qui ont, oui, on va dire, un lourd passé lié à la Shoah, par exemple.
Absolument, c'est un travail à la fois de tourisme culturel, d'animation culturelle et de mémoire dans ces pays-là. Alors, dans des pays comme la France, c'est évidemment complètement différent. Et là, le thème peut être ressenti de façon très différente. Si on prend l'Alsace, ça peut résonner quand même, non pas avec le renouveau de la vie juive, puisque le problème ne se pose pas, mais en tout cas comme la restauration, la rénovation d'un certain nombre de synagogues. Et là, je pense que Yoav est très bien placé pour en parler, mieux que moi peut-être, puisque, bien sûr, il y a un choix qui a été fait dans la conservation, qui doit être fait dans la conservation du patrimoine, et notamment des nombreuses synagogues, trop nombreuses pour qu'on puisse d'ailleurs toutes les sauvegarder. Mais il y a des projets en cours sur un certain nombre de synagogues, projets qui seront mis en valeur au cours de ces journées en Alsace par les présidents des synagogues concernées ou par des conférenciers, architectes en particulier, qui sont associés à ces rénovations en cours.
Yoav Rossano également, enfin, dans le Bas-Rhin, en Alsace, plus largement, les synagogues, on en a recensé quelques centaines, hein, c'est un patrimoine très important. Est-ce qu'il est important de toutes les rénover ou de toutes les ouvrir au public, ou sont des lieux, on va dire, comme certains châteaux forts, qui seront là, qui font partie de l'identité alsacienne, mais qui ne pourront pas forcément donner lieu à des travaux importants?
D'abord, déjà, les choses qu'on est en train d'organiser avec Thierry, c'est les portes ouvertes. En fait, l'idée, c'est ouvrir les portes de tous les patrimoines. C'est des portes de cimetières, des portes de synagogues, des bars rituels, etc. Et ouvrir déjà une porte d'une synagogue, c'est quelque chose qui est incroyable. parce qu'on a, déjà discuté de ça, on a vu que, aussi par expérience, que le moment qu'on ouvre une porte d'un synagogue, ça ouvre une petite porte dans le cœur de gens. Et je pense que c'est quelque chose qui manque un peu partout. C'est vrai qu'ici en France, ça fait des années qu'on ouvre le patrimoine et on fait découvrir le patrimoine. Mais comme Thierry a dit, il y a énormément de pays qui ne connaissent pas encore tout ça. Voilà.
Pour enchaîner sur l'ouverture du patrimoine, bon, c'est quelque chose qui est maintenant naturel avec les consistoires en Alsace et aussi avec les propriétaires de certaines synagogues ou anciennes synagogues qui ne sont pas propriétés du consistoire. Mais l'ouverture du patrimoine, ce n'est pas une chose évidente. Ailleurs en France, là je prends ma casquette de président effectivement en France des journées, on a du mal à, par exemple à Paris, où il y a quand même beaucoup de synagogues, oui. À faire ouvrir les synagogues. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est un échec.
Parce que ce sont des synagogues qui fonctionnent encore.
Bien sûr, à Paris, oui, oui.
Et c'est, ça... c'est ce qui rend difficile cette ouverture pour cette journée-là ?
On n'y arrive pas, alors pour des raisons qu'il faut creuser. On a un travail à faire avec notre vice-président Paris-Île-de-France, mais c'est un des objectifs, c'est qu'on arrive à faire ouvrir les synagogues à Paris. Alors ça marche très bien sur la Côte d'Azur, par exemple. Ça marche plutôt bien en Lorraine. Mais ça ne marche pas du tout à Paris aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de sécurité qui obnubilent les responsables. Voilà. Enfin, ça se résout. La preuve, c'est qu'ici, on ouvre la grande synagogue de Strasbourg. Donc, c'est faisable.
Ouais. Et justement, on parle de la grande synagogue de Strasbourg. Il y a un attrait ici pour les Strasbourgeois de ce bâtiment assez récent. Hein. On l'entend, on n'est pas dans le patrimoine d'ordre moyenâgeux ou même plus récent. Mais là, on est à l'orée des années 60, un bâtiment... fait de béton. Est-ce qu'il y a cet intérêt pour, on va dire, la culture juive, mais également le culte juif ?
Ben, l'intérêt est très simple, parce que comme les gens rentrent dans la synagogue, ils font tous la même « ouh », voilà. Alors ça veut dire que ça marche, ça veut dire que la synagogue a un aspect qui est incroyable. C'est vrai, il est en béton armé, mais c'est encore aujourd'hui, des côtés architecturaux, c'est incroyable. L'effet est magnifique. Et par rapport à la colonne, par rapport à la toiture qui fait l'Arche de Noé, etc. Et comme partout, comme à Saverne, à Reichshofen et partout, même ici, il y a beaucoup des habitants qui n'ont jamais visité la synagogue. Et en fait, c'est une occasion qui est importante, parce qu'il y a de temps en temps, il y a des concerts à la synagogue. Mais visite détaillée et guidée, par les rabbins ou par de gens qui travaillent ici, qui connaissent vraiment la communauté. C'est quelque chose qui est exceptionnel. Et chaque année, ça attire énormément du monde.
Oui. Mais je voulais juste compléter ce que disait Yoa, c'est que pour moi, il n'y a pas de frontière entre patrimoine et culture. Juive, on passe de l'un à l'autre. Pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais osé franchir la porte d'une synagogue, entrer dans une synagogue, c'est un début d'accès à la culture juive, même si la synagogue est moderne. Alors évidemment, si elle a un passé historique, c'est encore mieux, mais ce n'est pas indispensable au cours de ces journées.
Voilà. Alors on parle de culture juive, mais également, et forcément, ce sont des édifices religieux, culte juif, rentrer dans la religion juive. Ça aussi, c'est quelque chose que les visiteurs ont envie d'appréhender.
Oui, ils ont envie de voir un rouleau.
Au-delà de la pierre.
Ils ont envie de voir un rouleau de la Torah, ils ont envie de comprendre ce que c'est, pourquoi les Juifs y sont tellement attachés, pourquoi c'est si précieux pour eux, par exemple, oui.
En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les concerts, l'exposition, les conférences et tout ça, ça marche bien, parce que les gens viennent voir les artistes, et qu'on va parler tout à l'heure des programmations, mais aussi les bâtiments même. Qu'est-ce qu'il y a, les objets, les bâtiments, et comme ça, en fait, on a l'aspect patrimoine, culturel et éducatif.
Est-ce que vous avez une idée, vous, du plus ancien monument ou trace de la vie juive ici en Alsace ?
Oui.
Dites-moi.
Il faudrait distinguer entre ce qui est visitable et ce qui ne l'est pas.
Oui.
Alors, non visitable, la plus ancienne trace, je crois que c'est la synagogue de Roufac, l'ancienne synagogue de Roufac, mais qui est actuellement occupée par des particuliers. Et puis, il y a le bain le bain rituel médiéval de Strasbourg, qui est quand même de tout début du XIIIe siècle. Rue des Charpentiers, qui sera d'ailleurs ouvert à deux occasions, le dimanche 4 septembre, dans le cadre d'un parcours organisé par l'Office du tourisme à travers le patrimoine juif, et spécialement aussi le 11 le dimanche 11, par une initiative du Bnébrit de Strasbourg, qui l'ouvrira de 10h à 12h pour des visites commentées.
Alors vous le disiez, évidemment, des synagogues, des cimetières, on retrouve également des visites guidées à travers les traces de la vie juive rurale, mais également urbaine, des conférences, des expositions. Alors on ne va pas pouvoir être exhaustif dans ce programme qui est très très riche, hein, cette journée européenne de la culture juive. Mais pour vous, quels sont les temps forts, les choses qu'on ne va peut-être pas voir chaque année ou qui aujourd'hui viennent enrichir cette journée ?
Alors, il y a effectivement 70 événements au programme, très exactement. Donc, on ne pourra pas les détailler tous. Donc, c'est vrai que cette année, on met en particulier l'accent sur la rénovation des synagogues. J'en ai déjà parlé. Donc, je crois que c'est important de pouvoir se rendre, par exemple, à Guebwiller. Il y a un événement aussi très important qui se passe dès ce dimanche 4 septembre. Bon, c'est à la synagogue de Schirmeck. Il y a une cérémonie organisée par la municipalité et les amis de la synagogue qui est à l'occasion du retour du Sefer Torah de la synagogue de Schirmeck qui avait disparu pendant de très nombreuses années après la guerre. Bon, c'est toute une épopée que je ne peux pas raconter ici. Mais enfin,
alors, je l'ai en invité de la rédaction.
Voilà, hein, je pense qu'il y aura une émission spéciale Jacques Ruche là-dessus, donc je ne vais pas insister. Voilà.
Mais c'est aussi à 8h30 l'occasion sur Radio Judaïka, voilà. Juste voilà pour rappeler.
Voilà, donc il y aura le retour du Sefer Torah de la synagogue de Schirmeck, et en même temps, ça sera pour le public l'occasion d'entrer dans la synagogue de Schirmeck après une tranche très importante de travaux, puisque le bâtiment a été entièrement refait pour tout ce qui concerne l'eau, l'électricité, la sécurité, ouais. Etc. etc.
Ici à Strasbourg également, des gros événements pour les gens qui ne pourraient pas se déplacer.
Alors, des gros événements...
Enfin, des événements importants, bon, alors, comme ils le sont tous, bien sûr.
Dans les événements importants, je vais peut-être répondre un petit peu différemment à votre question. C'est que cette année, contrairement aux deux années précédentes, on ne va pas du tout être privé de musique, bien au contraire. C'est comme s'il y avait la volonté de rattraper les deux années de Covid, puisque les deux années de Covid, on n'avait pratiquement pas de concert, ou un concert, ou deux concerts maximum sur les journées. Là, cette année, il va falloir faire des choix pour le public, puisqu'il y aura plusieurs concerts qui vont se dérouler à la même heure, en des endroits différents. On a 11 concerts ou conférences musicales sur le programme des journées, et à peu près chacun des trois dimanches concernés, bon, il y a aussi un concert un samedi soir, il y a trois ou quatre concerts qui débutent pratiquement à la même heure. Alors, je ne peux pas rentrer peut-être, on n'a pas le temps, dans le détail, mais enfin voilà, il y a donc 11 concerts ou conférences musicales dans ces journées. Il y a aussi pas mal de conférences, aussi pour les mêmes raisons. On avait été privé de conférences à une ou deux exceptions près les deux années précédentes avec le Covid. Là, on a, je crois, 6 ou 7 conférences au total sur les
différents
lieux.
Des événements gratuits ?
Le principe général des journées voudrait que les événements soient tous gratuits. Alors parfois, il faut quand même rémunérer les artistes. Alors il y a deux formules. Il y a le plateau, ce qui permet à chacun de faire selon ses moyens. Et puis il y a peut-être certains événements quand même. Je pense en particulier aux événements, c'est normal, qui se déroulent dans le cadre du festival de musique juive de Hanau-la-Petite-Pierre. Bon, il y a une entrée, mais relativement modique. Et puis je signale aussi, c'est important à l'occasion de ces journées européennes de la culture juive, les musées, comme le musée judéo-alsacien de Buxwiller ou le musée du patrimoine et du judaïsme de Marmoutier, font une entrée gratuite toute la journée, enfin toutes les journées, puisque c'est les deux dimanches, au moins les deux premiers dimanches, 4 et 11 septembre.
Alors moi j'ai une dernière question. Alors on va juste, par rapport au programme complet de ces journées européennes de la culture juive, on peut les trouver sur le site, je suppose, de façon exhaustive, là, pour le coup.
Voilà, alors il faut peut-être rappeler l'adresse du site. Donc c'est jecpj-france.com et cliquer sur programme et ensuite Alsace.
Vous mettez sur un moteur de recherche Journées européennes de la culture juive 2022 et on va
ça marche aussi.
C'est très très bien répertorié. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que le patrimoine juif est entièrement découvert et répertorié ou est-ce qu'on peut encore faire comme le Mikvé justement de la rue des Charpentiers? Est-ce qu'on n'est pas à l'abri de faire encore ou est-ce que vous l'attendez, vous, une découverte de ce patrimoine ou d'un patrimoine ici à Strasbourg ou dans toute la région ?
on peut encore découvrir, je pense, des bains rituels. On peut encore découvrir peut-être de très anciennes synagogues qui sont, alors peut-être pas très bien préservées, mais enfin dont on peut retrouver la trace et sur lesquelles les archéologues peuvent travailler, qui sont à l'occasion de ventes de biens privés dans certains villages. Je pense que c'est encore possible.
Oui, oui.
Et vous êtes dans l'attente, vous, de ce genre de découvertes ? C'est ce qui vous porte aussi dans vos missions respectives ?
Alors moi, c'est une actualité que je suis, par exemple, au niveau France. Je suis avec intérêt les découvertes de bains rituels qui sont faites actuellement encore dans des communes. Alors là, on sort de l'Alsace, excusez-moi, oui. On est en comptant à Venessin, mais à Pernes-les-Fontaines, par exemple, on a découvert successivement deux bains rituels ces toutes dernières années.
Mm-hmm. Aussi, ici, dans les barins, il y a énormément de bains rituels qui étaient... qui était dans des maisons privées, voilà. Et après, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de retourner, redécouvrir aussi les bars rituels. Mais il y a de temps en temps quelques particuliers qui ouvrent leur maison pour redécouvrir les bars rituels. Ouais.
Puis il faudrait parler aussi quand même, même si la découverte remonte à maintenant une quarantaine d'années, mais si on va en France, il y a la Maison Sublime à Rouen qui a été découverte, mais dont l'importance et la signification n'a été comprise qu'au cours des toutes dernières années, puisque c'était sans doute la plus ancienne yeshiva école talmudique d'Europe. Hein.
Et
de France sûrement.
Et dont un film est sorti.
Et dont un magnifique film.
Par Hector Sabot.
Exactement. Moi, c'est l'occasion de saluer Hector Sabot pour son travail.
Thierry Corre, président donc, des Journées européennes de la culture juive France, et Yoav Rossano, donc en charge du patrimoine et de la culture ici au Consistoire israélien du Bas-Rhin. Merci à tous les deux pour la présentation de ce programme qui s'avère, on va dire, très renouveau. Et c'est le nom de ce programme cette année. Merci à tous les deux.
Merci à vous et à Radio Judaïka.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.